Bonjour à tous, vous êtes en forme? Super. Alors d'abord, je pense qu'on peut prier une petite seconde encore. Seigneur, ce qui est important, c'est ce que tu nous dis dans notre cœur. C'est pas ce qu'on entend, c'est ce que tu illumines nos cœurs par ta parole, par ta révélation, par qui tu es. Alors je te prie ce matin que chacun reçoive le pain. Reçoive la nourriture, reçoive ce que toi t'as prévu pour chacun. Et vraiment, je veux déposer à tes pieds tout ce que j'ai préparé ou autre. Et je veux que vraiment ta parole, elle produise son effet. Et uniquement ça. Et vraiment, Jésus, je te rends grâce pour l'assistance du Saint-Esprit que tu nous as mis à disposition. Et je veux vraiment qu'il soit à l'œuvre ce matin. Alors, je te laisse la place. Et que ton nom, Jésus, soit béni au travers de tout ça. Amen. Alors on va... Merci, Jérémy. Il m'a demandé, suite à Red, de parler sur la manne. Et en fait, ce matin, on a chanté « Plonger dans l'océan de ton amour ». Mais quand on plonge dans la parole, en fait, il faut un gros scaphandre, parce qu'on y reste plein dedans. Et en fait, plus on s'aperçoit que c'est une fosse profonde. Et du coup, j'ai appris plein de trucs. On connaît vraiment qu'en partie. Hein. Alors, on va lire ensemble Exode 16. Alors, je vous propose... moi, je suis toujours un peu long. Alors, je vous propose deux choses. On va faire ce qu'on peut. Et si vous voulez aller plus avant, je suis à votre disposition. Voilà. Alors on va lire ensemble. Donc toute l'assemblée des Israélites partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin qui est entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du deuxième mois après leur sortie d'Égypte. Toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites leur dirent, pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangeions du pain à satiété? Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour nous faire mourir de faim, toute cette assemblée. L'Éternel dit à Moïse, je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra ou non ma loi. Le 6e jour, ils prépareront ce qu'ils m'auront apporté, c'est-à-dire le double de la portion ramassée chaque jour. Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites, ce soir, vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte. Le matin, vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre lui. Que sommes-nous en effet pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et le matin du pain à satiété parce qu'il a entendu les murmures que vous avez proférées contre lui. Que sommes-nous en effet? Ce n'est pas contre nous que vous murmurez, c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron, dit à toute l'assemblée d'Israélites, approchez-vous devant l'Éternel. Car il a entendu vos murmures. Tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée israélite, ils se tournèrent du côté du désert, et voici que la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel s'adressa à Moïse, j'ai entendu les murmures des Israélites, dis-leur, au coucher du soleil vous mangerez de la viande, et le matin vous rassasirez de pain. Ainsi vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel votre Dieu. Le soir, survint des cailles qui couvrirent le camp, et le matin il y eut une couche de rosée autour du camp. Une fois cette rosée dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de petit comme des grains, quelque chose de fin comme de la gelée blanche sur la terre. Les Israélites regardèrent et se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que c'est ?» En effet, ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Une mesure de 2 litres par personne, suivant le nombre que vous êtes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. C'est ce que firent les Israélites. Ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesura ensuite la quantité précise. Celui qui en avait ramassé plus n'en avait rien de trop, et celui qui en avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse et certains en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. tous les matins. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le sixième jour, ils ramassèrent une double quantité de nourriture, 4 litres pour chacun. Tous les chefs de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Celui-ci leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à cuire, faites bouillir ce que vous avez à bouillir et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, cela ne devient pas infect. Il ne s'y mit pas de verre. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat en l'honneur de l'Éternel. Aujourd'hui, vous n'en trouverez pas dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, celui du sabbat, il n'y en aura pas. Le 7e jour, quelques membres du peuple sortirent pour en ramasser, mais ils n'en trouvèrent pas. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous de respecter mes commandements et mes lois? Considérez que c'est l'Éternel qui vous a donné le sabbat. Voilà pourquoi le 6e jour, il vous donne de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste sous sa tente, que personne ne sorte de chez lui le 7e jour, et le peuple se reposa le 7e jour. La communauté d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à la graine de coriandre, était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'une mesure remplie de manne soit conservée pour vos descendants. Ainsi, ils verront le pain que je vous ai fait manger dans le désert après vous avoir fait sortir d'Égypte. Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y 2 litres de manne et dépose-le devant l'Éternel afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage afin qu'il soit conservé. Les Israélites mangèrent de la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. La mesure de litre correspond à 1/10 de la mesure étalon. Merci Seigneur. Alors je vais vous poser une question. Dans quel contexte ça se passe? Ils en sont où là, le peuple d'Israël? Ils sont sortis d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé avant la sortie d'Égypte? Les plaies? Ok. Donc il y a eu les 10 plaies. Ils ont eu l'autorisation de sortir d'Égypte après avoir fait quoi? La Pâque. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? La mer s'est ouverte et qu'est-ce qu'il y a eu dans la mer? Les chars de Pharaon ont été détruits. L'armée de Pharaon a été détruite. D'accord? Ensuite, ils ont pu reprendre leur chemin et manger et marcher dans le désert. On est d'accord? Alors, et si on se met un petit peu à leur place, on voit Dieu détruire l'Égypte, les plaies. On voit Dieu ouvrir la mer Rouge, on prend la Pâque. Est-ce qu'on peut dire qu'on est quelque part dans la même situation? On connaît Dieu, on sait qu'il est grand, on sait qu'il est puissant, on a une base culturelle, on sait qu'on peut prendre la Pâque. Mais qu'est-ce qui se passe? Au bout de 30 jours, qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont partis d'Égypte? Ils ont, certaines versions, dépouillé les Égyptiens. Donc, ils ont pris de la nourriture. Bon, est-ce que ce passage, il nous dit que les Israélites crevaient de faim en Égypte? Non. Ils avaient des pots de viande, ils mangeaient à satiété. D'accord? Donc, ils ont pris des provisions. Donc, au bout de 30 jours, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien, d'accord? Donc s'il y a une grosse crise, votre compte d'épargne, au bout de 30 jours, il sera vide aussi. Hein. Donc au bout de 30 jours, il n'y a rien. C'était vraiment important qu'ils n'aient plus rien, d'après vous? Pourquoi? Pour dépendre de Dieu? Donc en fait, ça nous dit quoi, ça? Ben, quand on a, on ne demande rien à Dieu et on ne connaît pas Dieu. Première chose. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a fallu un mois, enfin 30 jours, pour épuiser ce qu'ils avaient. Donc, ils étaient là avec un Dieu qui était agissant. Comment ça se passait, leur marche? La nuée, la colonne de feu. Je ne sais pas si vous voyez, vous rentrez chez vous, vous avez la nuée. Puis la nuit, dans votre jardin, vous avez la colonne de feu. Est-ce que Dieu existe? Et pourquoi il n'existait pas pour le pain? Est-ce que dans nos vies, à nous, qui connaissons Dieu, qui savons beaucoup de choses sur lui, comment ça se passe quand il nous manque, quand on n'est pas content? Vers qui on murmure? Donc il y a une réalité de Dieu qui doit se manifester. Et ce qui est étonnant, c'est qu'au lieu de leur faire un grand discours théologique, leur donner les 10 commandements, leur faire tout ça, qu'est-ce qu'il va leur donner? Qu'est-ce qu'il va leur donner? La manne, du pain, d'accord? Qu'est-ce que Dieu veut leur montrer, d'après vous? Sa fidélité au jour le jour, d'autres choses? Qu'est-ce que Dieu fait en vérité? Oui, non, mais là, pour les Israélites, qu'est-ce que Dieu veut qu'ils connaissent de lui? Sa bonté de Père. Donc, en fait, qu'est-ce que Dieu? Dieu vient les rencontrer. Dieu vient se réconcilier avec cette image d'un Dieu puissant qui leur fait peur. Hein. D'ailleurs, on voit dans la suite qu'ils ont peur. La peur n'empêche pas de rouspéter. Parce qu'ils vont faire ça tout le long du chemin, malgré les machins. Donc nous aussi, chaque fois qu'on rouspète contre le gouvernement, contre tout ça, peut-être que si c'est Dieu qui a mis ça en place, on rouspète peut-être aussi contre Dieu. Dans tous les cas, dans cette manifestation, ce qui est intéressant, c'est de voir... que Dieu vient les rencontrer dans leurs besoins quotidiens, comme un père. Et il le fait à travers de quoi? Du pain. Parce que l'écaille, ça arrivait que 2 fois. Pourquoi il y a une différence entre l'écaille et le pain? Entre la viande et le pain. Le pain, c'est la base. Alors, comment ça s'est passé pour réformer l'Égypte du temps de Joseph? Vous connaissez l'histoire? Eh bien, petit à petit, il a enlevé les supports économiques du peuple égyptien pour les faire rentrer dans une économie divine, malgré eux. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que le peuple d'Israël va rentrer dans une économie de Dieu. Il va rentrer dans un Dieu qui pourvoit à mes besoins quotidiens en dehors de mes capacités à le produire. Est-ce que nous sommes encore au bénéfice de cette manne aujourd'hui? Ou est-ce que c'est mes capacités, mon salaire, tout ça qui me donne l'assurance? Et donc, où est Dieu? Est-ce que Dieu me donne la manne du matin? Où est-ce que Dieu est Dieu, là-haut? Et puis ici, aujourd'hui, parce que c'est dimanche, dis-donc. Donc Dieu est là. Super, bonjour Dieu. Où est-ce que Dieu me donne ma subsistance? Ma vraie subsistance. Donc la stratégie de Dieu, elle est toujours là. C'est-à-dire qu'il ne veut pas nous priver de rien. Il veut simplement nous révéler qui pourvoit nos besoins. Et si on passe à côté de ça, eh bien, on va, malgré tout ce qu'on peut faire, on va avoir ce réflexe égyptien de se dire, bah, je vais me débrouiller parce que je sais qu'en Égypte, eh bien, il y a des poireaux, il y a des machins, enfin, tout ce qui raconte. Et en fait, ça me manque parce que je ne crois pas, en fait, je ne crois pas que Dieu pourvoit. Donc c'est un problème qu'il faut qu'on règle au fond de nous, parce qu'à partir du moment où Dieu pourvoit, les choses ne nous appartiennent pas. Et on va, si je vais y arriver, étudier un peu la chronologie des versets. Donc on va étudier un petit peu les versets. C'est le, celui qui s'appelle. Voilà. Donc, ils partirent d'Élim. Vous savez qu'Élim, c'était là, il y avait déjà eu le problème de la soif. Et ils arrivent là. Et en fait, toute l'assemblée des Israélites murmure contre Aaron dans le désert. Pourquoi tout le temps, le réflexe, c'est de douter de la souveraineté de Dieu. Quand on se plaint, quelque part on confesse que ce n'est pas Dieu qui est aux commandes. Hein. Alors vers qui on se plaint? On ne va pas se plaindre contre, oh, des fois ça t'arrive peut-être, contre le pasteur. Mais souvent on se plaint sur différentes choses, comme si les circonstances dans lesquelles on vit ne sont pas celles de Dieu. Et en fait, souvent quand Dieu nous demande quelque chose dans sa parole, dans notre cœur, principalement pour donner, eh bien en fait on a ce réflexe-là. Pourquoi nous ne sommes pas morts de la main de l'Éternel en Égypte quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangeons du pain à satiété? L'Éternel dit, je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira, en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Est-ce que, quelque part, Jésus nous réexplique ça? On verra en détail tout à l'heure. Dans Notre Père, il dit quoi? Non, d'abord, il dit quoi? Ça commence comment, le Notre Père? Ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et après? Est-ce que là, Dieu était en train de faire ça? C'est-à-dire dire qu'il a été, dire que sa volonté, elle se faisait sur la terre comme au ciel, et dire que le pain, il le donnait quotidiennement. On est d'accord? Donc, et il dit, c'est étonnant, je le mettrai à l'épreuve pour voir s'il suivra ou non ma loi. Pourquoi il dit ça? Est-ce qu'il avait donné la loi? Non. Non, il a donné la loi bien plus tard. Donc, pourquoi il dit ça? Donc, quelle est la pédagogie de Dieu pour nous apprendre à respecter ses commandements? Pourquoi il se sert du pain? Alors, on peut être très spirituel, on dit le pain, c'est la parole de Dieu et tout ça. Ok, pas de souci avec ça. Pourquoi il fait ça, d'après vous? Pourquoi Dieu s'intéresse autant à ce qui fait notre subsistance, d'après vous? Comment ça se passait dans le jardin d'Éden? Est-ce que Adam et Ève crevaient de faim? Non. Donc le plan de Dieu, c'est qu'on mange, hein, qu'on ait de quoi subsister. On est d'accord? Et pourquoi il dit, c'est étonnant ça, je verrai s'il suivra ou non ma loi. Donc c'était quoi qu'il devait faire? Il devait ramasser un jour pendant 6 jours, et le sixième, 2 fois, et le septième. Bon, c'était compliqué. Et pourtant, c'est au travers de ça que Dieu estime s'ils vont suivre la loi. Donc nous, où est-ce qu'on en est avec les choses matérielles? Où est-ce qu'on en est avec les choses matérielles? Parce qu'en fait, oh, je verrai tout à l'heure, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a souvent cette dualité en nous entre des choses dites spirituelles et des choses dites matérielles. Seulement, Paul il dit quelque part, le naturel vient d'abord, le spirituel après. Et en fait, si on est fidèle dans les petites choses de notre existence, on peut avoir des grandes. Si on n'est pas fidèle là-dedans, eh ben on ne peut pas avoir les grandes. Donc on veut peut-être le réveil, on veut des tas de choses, comment on gère son budget, qu'est-ce qu'on en fait, quel est notre regard sur la vie économique, quel est notre regard sur notre gestion de famille, quel est notre regard là-dessus, parce que c'est comme ça qu'on commence à appliquer la loi. Et si on fait le parallèle avec l'Égypte, eh bien c'est avec Joseph, c'est ce qu'il a fait pour qu'il puisse rentrer dans les lois qu'il a préparées pour l'Égypte. Et moi, je prie pour qu'on change notre regard et qu'on soit réconcilié, que tout est spirituel. Il n'y a pas une séparation, pas des choses. Donc, comment je conduis mes affaires, comment je fais ça? Parce que il est dit quelque part à Kadès, quand les espions, c'est-à-dire que quand on ne croit pas que Dieu va pourvoir dans ce pays promis, on va mourir dans le désordre à cause de notre incrédulité. Donc c'est important d'être sûr de ces choses. Donc tout ce que j'ai vient de Dieu. Donc tout est ça en fait. Donc comment je le gère? Puis on verra les autres applications. Donc l'Éternel vous donnera soir de la viande à manger et du matin du pain à satiété, parce qu'il a entendu les murmures que vous avez proférés. La suite, le verset 8. Donc, pour la viande, j'en parlerai tout à l'heure. Voici ce que l'Éternel ordonne, que chacun en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Et ça, c'est important. Est-ce que dans mon budget, est-ce que dans ce que je suis, je sais ce qu'il faut pour ma nourriture, pour le train de vie de ma famille, d'une manière, est-ce que je le sais? Donc, suivant le nombre que vous êtes, chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente, donc ceux qui dépendent de vous. Ce qui firent les ramasseurs, les uns plus, les autres moins. Tiens, on mesurait la quantité précise. Ah, pourquoi je n'ai pas le droit d'avoir plus faim que l'autre? La quantité précise. Donc, est-ce que je sais précisément combien j'ai besoin, combien est assez pour moi? Est-ce que je le sais? Et puis, une fois que j'ai déterminé ça, je peux suivre le reste. Celui qui en avait ramassé plus, donc qui sait que là, les 2 litres par personne, mettons 5 personnes, 10 litres, ben j'en ai 12. Donc forcément, j'en ai un qui est pour moi. Celui qui en avait plus, n'avait rien de trop. Celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. On ne lit pas ça quelque part dans les Actes? Bizarre que dans les Actes, la première chose qui se passe, c'est qu'ils pratiquent ça. C'est-à-dire qu'ils comprennent que ce n'est pas eux, puisque la mesure juste donnée par Dieu, le reste ne m'appartient pas. Je peux en user de la mesure, mais le reste, c'est pas ça. Donc, c'est important. Et pour que personne n'en l'ait jusqu'au matin. D'ailleurs, je ne vais pas commencer à faire un plan épargne-man. Donc si la solution à la crise qui vient, c'est mon plan épargne, il y a des chances que ça ne marche pas. Ce qui va marcher, c'est la solidarité, c'est le fait d'être un même cœur, un même esprit, une même âme, et que nul ne considère que ses biens lui appartiennent en propre. Il y a encore du chemin à faire. Ils n'écoutèrent pas Moïse, et certains donc firent un livret A jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Donc là, à partir du moment où je ne crois plus que Dieu me donne le pain quotidien, il y a quelque part une pourriture qui va se mettre dans mon cœur. Et je vais devenir pur dans certains domaines. Je vous laisse vous débrouiller avec ça. Suivant, c'est pas moi qu'il faut écouter, c'est ce que le Saint-Esprit vous dit. Le sixième jour, ils ramassèrent chacun une double quantité de nourriture, 4 litres pour chacun. Est-ce qu'on croit ça par rapport au Shabbat? Est-ce qu'on croit? Comment ça se fait? Pour vous, c'est quoi la manne? J'ai oublié de vous poser cette question. C'est quoi la manne pour vous? C'est un phénomène naturel? C'est une belle histoire? C'est quoi? Comment vous, quand vous lisez ce passage, dans votre tête, c'est quoi la manne? C'est un miracle, un vrai. Et donc, pourquoi il n'y en a pas le septième jour? Parce que Dieu, il fait quoi le septième jour, lui? Donc, le septième jour, il ne fait pas de miracle pour votre pain. Par contre, le sixième, il fait un double miracle. OK? Donc, qu'est-ce que je vais faire dans mes activités économiques? Je réfléchis un peu à ça. Qu'est-ce que ça veut dire Shabbat pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire cette chose-là? C'est intéressant de creuser là-dessus. Donc, demain, c'est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Donc ça, c'était aussi une leçon que Dieu voulait vraiment que les Israélites comprennent. C'est-à-dire que je suis capable de pourvoir quand vous ne faites rien. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on y croit? Ou est-ce que pour faire mes fins de mois, je travaille au noir? Ou est-ce que le dimanche, ben ouais, si, je peux faire ça quand même. Ah, puis j'ai pas fini ça, donc il faut que je travaille. Parce que ben, lundi, ça ira pas si je l'ai pas fait. Mais est-ce que si je me repose en Dieu, il est capable de racheter le temps le sixième jour pour que le septième, ça se passe? Maintenant, pourquoi il y a une différence entre les chaussures et les pantalons et les chemises? On verra tout de suite. Après, je vous laisse réfléchir à ça. Donc là, il faut faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il les a. Est-ce que Dieu aurait pu dire, de la même manière qu'il l'a dit pour les chaussures et les vêtements, ils n'auront pas faim? Pourquoi il n'a pas dit ça? D'après vous, est-ce que Dieu n'est pas capable de te nourrir sans que tu manges? Ben moi, je pense que oui. Donc s'il fait ça, c'est pourquoi? C'est éducatif dans quel sens? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Nous apprendre que lui fait sa part et que nous, on a notre part à faire. C'est bilatéral. On a notre part à faire. Faites cuire ce que vous avez à cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Si on ne fait pas ça, s'ils n'ont pas fait ça, qu'est-ce qui se passe pour eux? Ah, moi, je pense qu'il y a une autre chose qui va se passer. Qu'est-ce qui se passait quand l'utilisation de la manne n'était pas conforme à ce que Dieu disait? Elle pourrit. Donc moi, j'ai quelque chose à faire. C'est-à-dire que la loi de Dieu, les principes de Dieu, ben, je ne peux pas y couper, quoi. Sinon, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas dans ce que Dieu a prévu et donc qui produit quelque chose qui pue et qui pourrit. Donc en fait, j'ai ça à faire. Si je ne fais pas ça. Ils le laissèrent jusqu'au matin. Je pense que le premier sixième jour, ça devait être un peu la traquette, quoi. Parce qu'ils voyaient bien que si on le gardait jusqu'au demain, ça pourrissait. Et là, on demande de faire pour 2 jours. Donc ça veut dire, mince, donc dimanche, je ne mange pas. Eh ben non. Ça ne devint pas infect. Il ne s'y mit pas de verre. Considérez que c'est l'Éternel qui vous a donné le Shabbat. Pourquoi? C'est voilà pourquoi le sixième jour, il vous donne de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste sous sa tente, que personne ne sorte de chez lui le septième jour. Alors là, on parle de nourriture. On pourrait parler de bien d'autres choses. Qu'est-ce qui me manque? Pourquoi je m'acharne à faire des choses et que ça me bouffe un temps de repos dans la semaine? Pourquoi je n'ai pas de temps de repos dans la semaine? Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi c'est difficile? Bon, débrouillez-vous. Suite. Et le peuple se reposa le septième jour. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'une mesure remplie de manne soit conservée par vos descendants, ainsi ils verront le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après que je vous ai fait sortir d'Égypte. Donc ce qui est important de voir, c'est que ce n'était pas un phénomène naturel. Les cailles, on sait que c'est un phénomène naturel. On sait aujourd'hui, quasiment une année sur deux, les cailles tombent dans le désert. D'accord? Donc Dieu a utilisé, pas de problème. Mais la manne, ils ont fait des tas d'études, ils ont regardé des tas de choses, ils n'ont pas trouvé. Comment un produit naturel, il ne marche pas le septième jour? Il y en a le double le sixième, il fond dans la journée, il pourrit. Si on le garde, si moi je le garde, il pourrit. Et en plus, quand je le mets dans... parce que ça a fini dans l'Arche de l'Alliance, il reste intact pendant des siècles. Donc ça veut dire quoi? Exactement. Donc, comment je regarde ma feuille de paye? Oui. Donc en fait, ce que Dieu... Qu'est-ce qu'il dit à un moment, Jésus? Il dit, Ce que tu veux garder, tu vas le perdre. Ce que tu es prêt à perdre, tu vas le garder éternellement. Enfin, on en parlera tout à l'heure. Et en plus, au bout de 40 ans, 40 ans, je ne sais pas si vous voyez, combien ils étaient là ? Entre, ouais, si on dit 635 000 par 5, ça fait déjà 3. Donc, je dirais plutôt entre 2 et 3. Je ne sais pas si vous voyez, s'il y avait un boulanger, ils font faire des miches de pain. Parce qu'en fait, il le transformait en gâteau, principalement, sauf le sixième jour. Donc, vous voyez que Dieu s'intéresse aux détails de nos vies et donne des consignes précises. Quelle est la proportion des consignes de Dieu que tu appliques dans ta vie courante ? Bon. Les Israélites mangèrent de la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent de la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières de Canaan. Et après, cette mesure de litre correspond à une dixième de la mesure étalon. Ça vous dit quelque chose, ça ? Pourquoi ? Merci, Jérémy. Pourquoi il dit ça ? La mesure de 2 litres correspond à un dixième de la mode. C'est quoi un dixième de ce que j'ai à manger ? Ah ! Bizarre. Bizarre qu'il dise ça comme ça. Qu'est-ce que je fais de ma dîme, moi ? Je vous laisse avec ça. Donc c'est la mesure étalon pour mesurer quoi, moi ? Qu'est-ce que je fais usage de la provision que Dieu m'a donnée ? D'accord ? Donc, est-ce que je donne ma dîme ou est-ce que je gère la provision que Dieu m'a donnée comme une mesure étalon et qu'un dixième lui est consacré ? Je vous laisse avec ça. On va passer au deuxième. Parce que moi, je suis toujours un peu long, alors j'ai essayé de me chronométrer. Alors voilà, bon ça c'est on l'a vu, passe. Donc pour moi j'ai distingué cet épisode de la manne, elle m'a parlé d'un point de vue pédagogique, managérial, d'éducation. Elle m'a parlé sur un plan matériel, elle m'a parlé aussi sur un plan d'enseignement de vie. Donc on va essayer de passer une demi-heure, ça devrait le faire. Donc pour moi, donc la manne nous enseigne plusieurs choses principales, 6 points. Le premier, Dieu pourvoit pour chaque famille, mais il faut aller la chercher. Est-ce qu'on est d'accord ? Elle est donnée, mais c'est par un travail, par une action humaine qu'on peut en jouir et on doit la transformer. C'est-à-dire que Dieu nous associe à sa vie. Et pourquoi Dieu nous associe à sa vie ? C'est pour qu'on se réalise qu'il est proche de moi. Il est proche de moi. Et il me donne dans toute chose. On pourrait parler des révélations spirituelles, on pourrait parler de la technologie, on pourrait parler des révélations dans le médical, on pourrait parler de tout. Mais s'il me donne une révélation, c'est vrai que quand on a une grande révélation, par exemple l'apôtre Paul, il a une grande révélation ou pas ? Donc c'est quoi la différence avec ceux qui étaient avec lui, qui sont aussi tombés de cheval ? Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient pas la lumière. Est-ce que Paul a rencontré Jésus ce jour-là ? Oui. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est levé, il est allé prêcher partout. Il était comment, Paul ? Aveuglé. Donc, des fois, la révélation importante, elle nous. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a fallu quoi, après ? Alors, il a dit, je vais chez Ananias ? Non. Ils le prirent par la main et le conduirent. Donc quand j'ai une révélation, qui me donne la main pour m'emmener vers un ministère qui me conduit dans mon ministère ? D'accord ? Donc, il ne faut pas que je m'écarte. Chacun en ramassait pour la famille et donnait le surplus en partageant avec ceux qui en avaient moins. Donc ça, nous, on veut vraiment rentrer là-dedans. Eh bien, ce matin, je pense que Dieu nous interpelle sur la gestion de nos ressources. que le, Paul dit en 2 Corinthiens que le superflu doit servir à celui qui manque, ainsi s'établit l'égalité. Ce n'est pas un problème d'égalité socialiste, c'est un problème de reconnaître que la provision de Dieu, elle est largement suffisante pour moi, et que forcément, quand Dieu me donne une provision, il y en a forcément pour quelqu'un d'autre. Donc si moi, j'utilise cette provision-là parce que j'ai des désirs, des convoitises, des envies de poireaux et de viande, comme j'avais dans l'Égypte, je vous laisse réfléchir à ça. Donc au verset 18, on mesurait la quantité précise, notion de cercle fermé. Bon, c'est normal. Combien est assez? Gestion responsable, ce que Dieu donne. Parce qu'en fait, si on ne sait pas combien est assez, eh bien, on n'a pas d'étalon. Donc comment je vais voir la mesure de l'homère ou de l'épha, la dixième? Je ne pourrais pas l'avoir. Vous êtes d'accord? Si Dieu pourvoit, et si je suis sûr qu'il pourvoit en double quand je ne travaille pas, quand je me repose en lui, donc quand est-ce que je peux me reposer en lui? Est-ce que c'est 15 jours par semaine? Ou est-ce que je suis dans le repos? Donc si je suis dans le repos, le vrai repos, je vais voir ce que Dieu veut me faire voir et il va me donner une portion double. Elle durait qu'une journée. Donc là, si on revient à ce que dit Jésus, ne vous inquiétez pas du lendemain, chaque jour suffit sa peine. Donc, est-ce que je suis bien dans cette dynamique-là? Ou est-ce que je fais des provisions, des plans, des trucs? Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de l'épargne. Hein. Je dis simplement que dans mon cœur, est-ce que j'ai suffisant pour aujourd'hui et est-ce que cela me suffit? Le lendemain aura soin de lui-même. Pourquoi? Parce que le lendemain est à Dieu. Par contre, mon prochain, lui, dans cette journée, il est à moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Suivant. Dieu pourvoi pour le Shabbat. Elle ne pourrit pas le septième jour au travers à la fois d'une gestion de la provision et de l'obéissance. Vous savez, il y a toujours les deux choses. Montrer que la foi dans les principes de la parole transcende les lois naturelles et nous amène dans le repos. C'est en fait ça qu'il faut que ça rentre là-dedans. Moi, j'ai mis une vingaine d'années dans l'entreprise à comprendre ça. C'est qu'en fait, ce n'est pas le marché qui commande. Non, c'est quand je fais ce qu'il demande, ça fonctionne. C'est-à-dire que nous, on reste toujours avec une référence égyptienne. Et on veut, avec cette référence égyptienne, rentrer dans le surnaturel de Dieu pour le reste. Mais ça ne marche pas. La preuve, c'est que la pédagogie de Dieu, elle nous amène déjà dans la réalité de ce que je suis, de ce qui est essentiel pour moi, à le reconnaître et à gérer comme il veut. Donc, celle qui a été déposée dans l'arche n'a jamais pourri. Il n'y a pas, dans ce que Dieu donne pour notre subsistance, essayez de prendre une seconde, qu'est-ce que vous avez à votre disposition pour votre subsistance? Est-ce que c'est des choses saintes ou est-ce que c'est des choses séculières? Dans votre tête? Dans votre cœur? Yep. Dieu, il est quoi? Il est esprit. Il n'y a pas de distinction pour lui entre le matériel et le spirituel. Donc, est-ce que vous prenez plus soin de votre Bible, par exemple, que dans l'autre bouquin? Qui vous a donné l'autre bouquin? À partir du moment où les choses ne sont pas reçues de Dieu, elles ne sont pas saintes. Mais tout ce qui nous est donné de Dieu vient de Dieu et est saint. Donc, est-ce que nous, on a une gestion qui s'approche de la sainteté de toute chose? Ou si c'est juste notre vie spirituelle, notre sexualité, ou notre vie de couple, et l'éducation des enfants? Ou est-ce que ça s'étend à tout ce que Dieu nous a donné? Je l'ai dit tout à l'heure. Elle a été, ça c'est important pour ceux qui sont, pour tout le monde, mais particulièrement pour ceux qui ont des choses à gérer, est à disposition pendant 40 ans. Donc aujourd'hui, pour partir à la retraite, il faut combien de temps? 42. Donc il était déjà, hein, vous voyez? Dans des lieux différents, hein, on est d'accord? Ils ne sont vraiment pas restés au même endroit, ils n'ont pas eu le temps de planter des choux et des carottes, hein. Dans des circonstances diverses, même pendant la guerre contre les Amalécites, indépendamment du contexte d'obéissance, est-ce que les Israélites ont vraiment obéi? Non. Donc en fait, est-ce que l'amour de Dieu, dans sa provision pour ma subsistance, il va être conditionné par le fait que je sois un très bon chrétien? Eh bien non. Est-ce qu'on mesure la bonté de Dieu, mais extraordinaire? Donc est-ce que moi je suis dans cette dynamique de croire que malgré ce que je suis, ben, il va pouvoir à mes besoins quand même? Et donc, à cause de cette grâce qu'il me fait, je vais essayer de gérer mieux. Dans des circonstances politiques, économiques, mais chaque jour pour nourrir environ 2-3 millions de personnes. Mais là, elle s'arrête en un jour. Je trouve ça extraordinaire. Je ne sais pas si vous voyez, si vous faites la multiplication, 3 millions de personnes par 2 litres, ça fait 6 millions de litres tous les jours. Je ne sais pas si on voit un peu. 6 millions de litres. Vous rendez compte? Est-ce que vous croyez que chacun sortait comme ça, allait chercher? Ou c'était organisé? Par tente, par tribu, c'était organisé. Ouais. Donc, nous, on croit souvent que Dieu fait les trucs, et puis nous, bon, bah, si on a compris, on fait le machin. Non, Dieu est un Dieu d'ordre. Il est organisé. Et c'est vraiment un Dieu du miracle, parce que quand on commence à mettre des chiffres, là, ça devient, je ne sais pas si vous voyez, 6 millions de litres par jour. Et un jour, 12 millions. Est-ce qu'on se rend compte? Enfin, est-ce que moi, j'ai essayé de comprendre, de faire des comparaisons avec des lacs, avec 12 millions de litres. Ça fait combien de mètres cubes? Ça fait combien de piscines? C'est inouï. Et c'est inouï, mais ça s'arrête un jour. Et on va en parler après. Suivant. Donc l'enseignement de vie. Donc là, c'était dans le matériel, il faut qu'on rentre dans cette dimension de la gestion avec Dieu de toutes choses. Dans l'enseignement de vie, discerner que l'utilisation de toutes les ressources données sont essentielles pour le connaître. Qu'est-ce que Dieu veut faire au travers de cette manne? Il a deux objectifs. Il veut se révéler comme un père qui pourvoit d'une manière certaine et d'une manière organisée. Et moi, je gère ça selon ses principes, et là, ça fonctionne bien. Et je peux me reposer le septième jour. Il me dit aussi que ce jour-là, bah, c'est le sien. C'est le sien. Et qu'est-ce que je vais faire ce jour-là? Bah, quand vous avez fait un bon repas, vous dites quoi à celui qui a cuisiné? Merci. Donc le septième jour, on dit merci pour les 6 autres. D'accord? On s'assied tranquille avec lui, puis on dit merci pour les 6 autres. Donc, Deutéronome 8 à 5, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier. T'humilier, ça veut dire quoi? Alors, si c'est s'humilier qu'un Dieu bon qui m'aime, ça veut dire quoi, s'humilier? L'humilité, c'est quoi? Voilà, reconnaître surtout que moi... D'accord. Quel est un signe courant d'humilité? Oui, humilité, ça veut dire que moi, je suis inférieur quelque part dans ma capacité à faire. C'est ça. C'est-à-dire qu'au bout de 30 jours, ils ont fait les fonds de poche et puis ils ont dit, oulala, ça va pas. Et là, Dieu les rejoint. Et montre que, ben oui, t'es limité, mon gars. Sans moi, t'es limité. Donc, tout ce que tu vas faire sans moi sera limité. Pour te mettre à l'épreuve, pour connaître les dispositions de ton cœur, pour savoir si tu respectais ou non ses commandements, il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, que tes ancêtres n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc la manne, est-ce qu'elle sortait de la bouche de l'Éternel? D'accord. Donc souvent on fait le parallèle avec la parole de Dieu, avec lire sa Bible et tout ça, et c'est très très juste. Mais en fait, il faut spiritualiser beaucoup de choses mais toute chose. Donc, moi, j'aime ça, parce que Dieu, il vient m'apprendre les choses avec ce que je suis capable de gérer. Ma bouffe. Et une fois que je gère ça comme il faut, je peux comprendre quelque chose du cœur de Dieu. D'accord ? Donc, quand on veut s'occuper de personne ou autre, il faut déjà regarder s'il a de quoi manger avant d'essayer de faire autre chose. Pendant ces 40 années, ton vêtement ne s'est pas usé contre toi et ton pied n'a pas enflé. Comment ça se fait que ça s'est passé, ça ? Il n'y avait pas de, comment ça s'appelle, de maroquinier, et, enfin de, ouais, comment on dit, de tailleur et de, comment ceux qui font les chaussures, là, de cordonnier. Il n'y avait pas de tailleur ni de cordonnier dans le peuple d'Israël. Est-ce que vous vous rendez compte, aujourd'hui vous achetez une paire de chaussures, un pantalon, une chemise, dans 40 ans ils sont nickel. Donc c'est sûr que ce n'est pas Shine qui va faire ça. Non, mais est-ce qu'on se rend compte un peu ? Et qu'est-ce qu'il faisait à peu près par jour, comme kilomètre ? Sauf le septième jour. On estime qu'il faisait entre 15 et 30 kilomètres par jour, suivant les jours, dans le désert. Est-ce qu'il transpirait, les gars ? Parce que moi, ma femme, elle regarde mes trucs sous les bras, puis elle dit « Fous-moi ça à la poubelle, c'est tout pourri. » Non, est-ce qu'on lit ça comme ça ? Ou est-ce qu'on se rend compte ? Est-ce que ça peut m'arriver ? Est-ce que dans ma gestion, Dieu peut me permettre de conserver des choses ? Est-ce que Dieu est capable de garder ce que je reçois de lui ? D'accord ? Et le pied n'a pas enflé. Je trouve que c'est intéressant. Moi, j'ai des varices. Si j'avais été comme ça dans le désert, je pense que j'aurais eu des soucis. Mais non. Le pied n'a pas enflé non plus. Donc, qu'est-ce que Dieu fait dans cette période-là ? Il prend soin de quoi ? Il prend soin de la vie courante. Si on regarde les prescriptions sur toute l'hygiène et tout ça, il prend soin de la vie courante. Donc, est-ce que je suis conscient que Dieu, il a quelque chose à dire dans ma vie courante ? Reconnais dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son enfant. Donc, est-ce qu'il y a des zones où quand je dois obéir, je dis non, non, ça, c'est pas bien, ça, non, non, ça va me faire du mal ou tout ça. Ou est-ce que je comprends que Dieu m'éduque comme un homme éduque son enfant pour son bien, y compris quand il me corrige, y compris quand il me dit non, ou y compris quand il me dit fais alors que j'ai l'impression de perdre, parce qu'il est capable que mes chaussures et mes vêtements ne s'usent pas. Est-ce qu'on y croit ? Est-ce qu'on y croit dans les temps qui viennent ? Est-ce que cette chose-là, elle va être une révélation dans notre cœur ? Continue. Donc l'enseignement de vie, l'analogie avec la parole qui est Jésus. En Jean 6, Jésus répondit, vraiment je vous l'assure, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui donne le pain du ciel, le vrai pain. Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Pourquoi le pain a une signification si particulière ? Pourquoi il leur a donné du pain ? Et pourquoi il n'a pas donné de la viande tous les jours ? Pourquoi dans la tentation de Jésus, Satan utilise le pain pour répondre à la faim, mais Jésus répond que le vrai pain est la parole de Dieu ? Pourquoi au passage, la viande n'a pas le même statut que le pain ? C'était qui nourrissait le peuple dans le désert ? C'était Jésus. Donc, est-ce que moi, je vais chercher auprès de Jésus chaque jour ma nourriture ? Ou est-ce que c'est un peu casse-pied, ça me prend beaucoup de temps ? Ou est-ce que c'est vraiment ma nourriture ? Parce que si je veux connaître sa volonté, il faut que j'aille la chercher dans la parole de Dieu. Donc c'est important. Dieu, la Trinité, c'est une entité organisée et qui sait ce qu'elle fait et marche dans ses projets d'une manière homogène. Donc pour amener le peuple qui devait être la lumière du monde, qui devait vivre et professer les principes de Dieu sur la terre, montrer comme un exemple qu'on peut vivre dans le royaume de Dieu sur la terre, il commence à leur apprendre à faire du pain. Parce que le pain de Dieu, c'est celui qui me nourrit. Donc moi, où j'en suis avec ça? Et ce n'est pas la viande. La viande, la deuxième fois, ils l'ont vomi. Donc on pourrait, je n'ai pas le temps de réfléchir à ça, de vous faire réfléchir là-dessus, mais je vous pose quand même la question. Un jour, si vous avez un moment, vous pouvez demander à Dieu pourquoi. Suivant. Jésus le répète en Matthieu 6, « Pourquoi je vous dis, vous inquiétez pas de ce que vous mangez et boirez pour vivre et ce dont vous habillez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement ?» Vous voyez, où est-ce que vraiment j'ai ma foi? Où est-ce que vraiment j'ai ma foi? Parce que je dois checker, au moins une fois par semaine, je dois checker où c'est que je suis inquiet. Qu'est-ce qui m'inquiète? Ma santé, mes finances, ma vie de famille, mon salaire, ma vie économique, mon état de chrétien. Donc si je manque de nourriture dans mon âme, dans mon esprit, qui va me la donner? Faut que j'attende dimanche ou samedi soir? Ou si elle est à ma disposition? Si je vais la chercher? Le problème, c'est d'aller la chercher. Et qu'on pense que, étant donné qu'on a été baptisé dans le Saint-Esprit, ça va tout venir là-dedans. Nos problèmes, j'ai plus rien à faire. Non, la manne était là, il fallait aller la chercher. Jour après jour. Et même, à la limite, c'est même pas la peine d'aller la chercher le dimanche, si je l'ai pris tous les jours. Le dimanche, je me réjouis de ce que Dieu a fait les 6 autres jours. Et seulement la parole, la sainte scène dont il est parlé dans le Notre Père, donne-nous notre pain quotidien, ou si ça concerne tout ce qui contribue à notre existence. Est-ce que dans ma compréhension, il y a une différence du dualisme entre les éléments culturels et matériels? Donc si j'ai des différences d'appréciation de certaines choses, il faut que je réforme ça. Parce que tout est à Dieu. Donc tout est saint. Donc si mon salaire est saint, qu'est-ce que j'en fais? Si mes biens sont saints, qu'est-ce que j'en fais? Réalisons que l'esprit vit au et dans, au et dans, au et dans notre quotidien. C'est ça qui est important. On est tous d'accord pour vous dire le Saint-Esprit vit en moi, mais est-ce qu'il vit dans mon quotidien? Est-ce qu'il vit dans mon quotidien? Quelle est mon implication et organisation pour assimiler ma subsistance éternelle si je crois ça? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire sur cette terre? Oui. Mais surtout, on gère tout ce qu'il nous donne, toute sa création avec lui. D'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Bon, si vous êtes d'accord, tout va bien. Alors, en fait, qu'on puisse le faire ensemble. Suivant. Oui, c'est ça. Le partage est le don à autrui. Qui est mon disciple? Ce que j'ai reçu doit être partagé. Sinon, ce qu'il m'a confié pour mon prochain, quelle que soit la nature de ce qu'il m'a confié pour mon prochain, risque de puer et pourrir. Mais si je le donne, ce sera un facteur de multiplication dans le pays qu'il m'a donné. C'est-à-dire que nous, la peur empêche la multiplication. C'est aussi simple que ça. Si j'ai peur, il n'y a pas de multiplication. Donc tout ce qui me fait peur, ça va m'infecter. Ça va me rendre puant dans certains domaines. Hein? Donc si j'ai peur, il n'y a pas de multiplication. Par contre, si ce n'est pas à moi et que je donne avec libéralité tout ce que j'ai, mes ressources, mes connaissances intellectuelles, mes révélations, tout ça, eh bien, il va y avoir une multiplication. Celui qui donne reçoit et on donnera une mesure secouée qui déborde. Par contre, si je la mets dans mon placard, elle risque de faire quelque chose de très mauvais. Donc, verset 28-29, quelle est ma position théologique vis-à-vis du Shabbat? Ancien ou Nouveau Testament? Je dois poser sincèrement cette question au Saint-Esprit et apprendre des décisions en conséquence. C'est-à-dire que je dois faire ce que le Saint-Esprit me demande de faire dans mon organisation personnelle à ce sujet-là. Je ne suis pas à suivre un dogme. Comment je check un jour par semaine les bontés de Dieu de la semaine écoulée? Et comment je check ma capacité à apprendre ce qu'il faut que je remette en ordre? Donc ça, c'est important. On n'est pas en train de judaïser. Je répète, on n'est pas en train de judaïser. On est en train d'essayer de grandir dans la connaissance de Dieu et d'être béni. En Jean 6, 58, c'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que vos ancêtres ont mangé. Eux, ils sont morts. Mais celui qui mange ce pain s'y vivra pour toujours. Si je me concentre que sur le matériel, c'est-à-dire ma préoccupation essentielle, je vais mourir spirituellement. Donc, en fait, ce Shabbat, il est là pour quel est mon regard sur ma vie? Objectif avec lui. Dieu, c'est quand il dit « je vais t'humilier », c'est simplement « je vais te remettre à ta place pour que tu puisses grandir ». Parce que je suis comme un homme qui éduque son enfant. Je ne cherche pas à te condamner. Je cherche pas. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour réformer ce monde. Donc, je ne vais pas te condamner. Par contre, je vais t'éduquer. C'est-à-dire, je vais t'amener dans une connaissance qui te permet de pratiquer pour être un témoin. Continue. Et donc ça, c'était la première chose que la manne, elle m'a parlé. C'est en fait, c'est l'application pédagogique pour le discipulat. Donc nous, pour fabriquer des salariés dans l'entreprise. C'est-à-dire que Dieu fait comme ça, et moi, je suis quasi certain que cette pédagogie de la manne, c'est une pédagogie fondamentale d'éducation pour faire... quand on veut transmettre quoi que ce soit. La première chose, la manne est à disposition. C'est un temps de formation, de subsistance assurée. C'est-à-dire que quand on veut que quelqu'un assimile quelque chose, on le met en sécurité. On n'est pas en train d'évaluer, de trucs. On le met en sécurité et on lui donne ce qui est nécessaire à sa construction. Et Dieu fait comme ça avec nous. Mais nous, on doit faire comme ça avec nos enfants. On doit faire comme ça avec tous ceux à qui on veut transmettre quelque chose. Il doit y avoir un temps où la manne est à disposition. Donc nous, on faisait ça sur 3 ans pour les salariés. Donc la première année, ils étaient là, ils avaient juste à apprendre. On ne demandait rien d'arriver à l'heure, d'être là, mais apprendre. La deuxième année, c'est l'entrée dans la terre promise. C'est-à-dire que le jour où ils sont rentrés, la manne s'est arrêtée. Vous êtes d'accord? Donc il y a un temps... ou si on a bien travaillé le désert, eh bien, la personne est prête à transformer ce qu'on va lui donner. C'est-à-dire que la première année, ils ont mangé le blé qu'ils n'avaient pas cultivé, ils ont mangé les fruits des arbres qu'ils n'ont pas plantés. Et ça, pour moi, c'est une vraie pédagogie. C'est-à-dire qu'il y a une continuité de la provision de Dieu au travers d'autres personnes, au travers d'autres moyens, mais on rentre dans le pays promis. Et ça, c'est important. Ils n'ont rien cultivé. Ils ont récupéré le fruit du travail d'un autre. Donc quand on est en train de faire des disciples, quand on est en train de coacher quelqu'un, quand on est en train d'accompagner quelqu'un, il y a un temps où on fait les choses à sa place, et puis il y a un temps où on est là avec lui parce qu'on lui montre qu'il peut jouir du travail de quelqu'un d'autre, et on va regarder comment il commence à gérer ça. Donc nous, c'était la deuxième année. Eh bien, on lui donnait de l'autonomie sur certains postes, etc. C'est une période de sécurité toujours, mais de validation et de participation. La validation et la participation, la validation ne se fait jamais la première année. Elle se fait quand la personne a assimilé, qu'on connaît son cœur, qu'on a compris des choses et qu'on commence à le libérer dans l'autonomie. Et d'ailleurs, si on regarde les qualifications des diacres et des anciens, on peut trouver aussi le même principe. Et on peut le retrouver, je pourrais vous en parler beaucoup, beaucoup, puisque ça, c'était une révélation pour moi il y a une vingtaine d'années. L'établissement à la terre promise. C'est-à-dire qu'une fois que ça s'est fait, qu'il a appris à transformer ce qu'il a appris à gérer, eh bien, on lui donne de l'autonomie. Et seulement à ce moment-là. D'accord? Donc, ce principe de la pédagogie qu'il a appliqué au peuple d'Israël, eh bien, je crois qu'on doit l'appliquer. Qu'est-ce qu'a fait Jésus avec ses disciples? leur a montré les choses pendant un certain nombre d'années. Après, il les a envoyés faire les choses avec son mandat. Après, il leur a demandé une restitution. Et puis, il les a préparés pour être autonomes quand ils ne seraient pas là. Donc nous, il ne faut pas non plus qu'on fasse les choses n'importe comment dans notre vie d'église, dans notre vie personnelle, avec nos enfants aussi. Est-ce qu'on est exigeant à vouloir que nos enfants obéissent, ou on cherche par exemple à leur faire comprendre par l'accompagnement à choisir les bonnes choses, choisir l'obéissance, choisir tout ça. Et est-ce qu'après, on leur donne déjà des responsabilités dans certains domaines où ils ont compris, pour leur montrer qu'ils peuvent faire sous notre contrôle et les amener à faire sans notre contrôle ? Je crois que, enfin, comme je disais, c'est océan de révélation quand on plonge dans la parole de Dieu. Et vraiment, moi, ce que je voudrais vous partager, c'est que mon cœur, c'est vraiment, soyons réconciliés avec ce Dieu qui déjà a donné Jésus dans le désert. Parce qu'au fait, Dieu, il a donné Jésus quand ? Aussi, bien sûr, mais avant. Quand est-ce qu'il a donné Jésus ? Quand il a été dépassé par la rébellion du diable ? Dès la fondation du monde. Donc avant la fondation du monde, il y avait quoi ? Il n'y avait rien. Donc est-ce que Dieu peut être dépassé par les événements d'aujourd'hui ? Donc est-ce que dans mon cœur, quand je regarde les infos, quel est mon regard ? Quelle est ma réception ? Par rapport à Dieu. Où est-ce que Dieu va s'occuper de mon quotidien si moi je le gère selon ses principes ? Est-ce que ça peut suffire dans ma tête ? Donc qu'est-ce que j'ai, ma question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que j'ai à réformer dans ma conception de ce que j'ai pour me préparer à vivre en autonomie avec lui dans la crise qui vient. Je vous laisse avec ça, je vais juste prier. Seigneur, on est devant toi. Moi, je crois que ta parole, elle fait son effet, donc je suis tranquille. Je te demande pardon pour ce que j'ai peut-être pu digresser ou autre, mais je prie au nom de Jésus que ce que tu as prévu pour chacun dans sa conscience, eh bien, ils le reçoivent. Vraiment, ils le reçoivent. Et ils ne le reçoivent pas comme un enseignement ou une nouvelle découverte. Ils se disent, que veux-tu que je fasse ? Que veux-tu que je fasse ? Si moi je rentre dans tes principes aujourd'hui, demain je serai une arche pour ceux, ma famille, pour mes voisins, pour tout ça. Et c'est ça que je veux. Je veux être une source de bénédiction. Simplement la source de bénédiction est l'obéir qu'à tes principes. Alors je veux rentrer dans tes principes encore plus profonds. Je veux vraiment, vraiment, vraiment devenir ton disciple. Je veux vraiment mettre en pratique ta parole. Je veux vraiment chercher dans les coins de ma vie et m'aligner avec toi afin que tu puisses déverser ta provision en abondance. Alors Seigneur, je bénis mes frères et sœurs ce matin. J'appelle ta grâce, j'appelle cette réconciliation. Que tout à l'heure, quand ils vont manger, ils disent « Merci Seigneur, c'est toi qui me donnes ça. » Et quand toutes choses qu'ils vont recevoir, « Merci Seigneur, c'est toi qui me donnes ça. Comment veux-tu que je le gère ?» Et j'appelle cette responsabilité. Parce que si les choses sont saintes, j'ai une responsabilité. Si je les considère comme séculières du monde, je vais les gérer comme ça et je vais les sortir. Je vais les sortir du royaume de Dieu. Or, nous devons faire rentrer dans le royaume de Dieu. Et nous faisons rentrer par la foi, par notre vision des choses, par notre connaissance du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les choses dans le royaume de Dieu. Amen.